Les compresses humides peuvent jouer un rôle important et utile, notamment quand il y a de l'inflammation et des blépharites. Donc, les inflammations des paupières peuvent accentuer le problème de sécheresse. Vous savez que les yeux sont humidifiés par plusieurs choses différentes, par des substances aqueuses, que sont les larmes, et puis des substances plus graisseuses, visqueuses, qui sont produites par d'autres glandes, qui peuvent s'enflammer, ensuite se boucher et être moins efficaces. Et quand elles se bouchent comme ça, généralement d'abord qui est rouge, c'est enflammé, et des compresses humides pour dégorger ces glandes peuvent être utiles. Mais là, les ophtalmologues, en général, donneront des bons conseils. Si vous avez l'œil rouge, la paupière rouge, il faut consulter un ophtalmologue, un ophtalmologue qui connaît ce problème, et je peux vous donner quelques noms si vous voulez. Il y a notamment le docteur Dossot et le docteur Farcourt, pour n'en citer que deux. Hein, c'est ceux avec qui je travaille le plus, connaissent bien le syndrome sec, qui peuvent donner de bons conseils. Ensuite, dans certains cas, on peut donner des émulsions à la cyclosporine ou au tacrolimus, donc des pommades ou des gouttes avec ces substances, cyclosporine ou tacrolimus, qui sont des immunosuppresseurs qui peuvent éventuellement diminuer l'inflammation locale et d'autre part diminuer l'inflammation dans les glandes et éventuellement favoriser comme par là la sécrétion. Alors là aussi, il y a des problèmes de tolérance. Mais ça vaut la peine de discuter ça avec un bon ophtalmologue qui connaisse bien la question. Est-ce qu'il faut utiliser des gouttes ou des pommades de corticostéroïdes? Alors, si on en utilise, il faut vraiment le faire très ponctuellement, pas trop longtemps, parce que ces corticostéroïdes, vous le savez probablement, ont beaucoup d'effets secondaires, notamment sur la surface de l'œil, et puis ça aussi, ça favorise la cataracte, donc il ne faut pas en abuser. Là aussi, il vaut mieux utiliser des monodoses que des flacons, mais surtout pas les prendre trop longtemps, même en cas de blépharite. Il vaut mieux essayer de trouver d'autres solutions que des traitements prolongés de corticostéroïdes. Ensuite, on peut proposer des interventions chirurgicales. Là, les ophtalmologues qui connaissent bien ça savent quand c'est une bonne indication ou pas. On bouche les canaux d'évacuation des larmes, ce qui permet aux peu de larmes qui sont sécrétées de rester sur l'œil et d'exercer un effet plus prolongé. Et puis finalement, pour les cas très sévères, on peut proposer du séromatologue. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà dû ou utilisé du séromatologue. Donc, oui. Alors, probablement, d'abord, vous avez un bon ophtalmologue, et deuxièmement, vous avez probablement effectivement un problème assez sévère au niveau de l'œil. Mais le séromatologue, donc, qu'on fabrique à partir du sang du patient lui-même, et on sépare le sérum des globules, et ensuite on conditionne de manière à ce qu'on puisse l'utiliser. C'est assez cher, mais dans certains cas, c'est beaucoup plus efficace que les larmes artificielles. Ça contient des substances antiseptiques, c'est un bon lubrifiant, et il y a des patients qui sont fortement soulagés par ça. Je ne sais pas si c'est votre expérience aussi. Non, ça n'a pas marché. Bon.
Moi, j'ai une situation pour des moyens mécaniques, parce que moi, par exemple, je porte des lentilles.
Oui, alors ça, c'est une autre, quelque chose d'autre qui a été proposé. Oui. J'ai pas eu de très très bons échos, mais vous êtes content? Ah ouais, bon. Donc des grosses lentilles qui courent le plus gros de l'œil.
Je les rends vides, je les colle dans l'œil, et vraiment je les humidifie toute la journée, il est protégé des poussières, du maquillage, de tout ce qui peut toucher l'œil.
Ouais, tout à fait. Alors ça peut être une très bonne, effectivement.
J'ai trouvé que c'était bon. Alors tout le problème, c'est le remboursement.
Ouais. Là, c'est un des problèmes parce qu'il y a le remboursement, puis il y en a qui les supportent mal. Alors,
on peut trouver le moyen. Il y a quelqu'un très bien, je vais expliquer ça, qui est très méticuleux. Il va passer 6 mois à tester toutes les lentilles sur mesure. Il va y aller. C'est Michler.
Michler.
Oui, il est à la.
Je ne connais pas, mais je.
C'est ça qui fait ça normalement.
D'accord. S-C-H-L-E-R.
M-I-S-C-H-L-E-R.
D'accord. Ok. Alors voilà, donc, oui.
Juste par rapport aux larmes artificielles, est-ce qu'il y a des sortes de larmes qui agissent plus longtemps que d'autres?
Oui, alors il y en a qui sont.
Peine à trouver, Il y a des fruits, doivent être tout le temps.
Ouais. Il y a le lacrymisque, par exemple, qui est assez efficace. Mais il y en a clairement qui sont plus visqueuses que d'autres. Alors là, je pense que le mieux, c'est d'en parler à votre ophtalmologue.
Moi, lui, il m'a donné plein d'échantillons, il m'a dit qu'il faut tester.
Oui, ben, voilà, c'est mon fait en général. Ouais.
C'est difficile des mois de savoir.
Parce que j'ai testé beaucoup de larmes, mais les systèmes, elles sont miraculeuses.
Ok.
En monodose, vraiment, j'ai résolu mon problème avec ça.
Ok, ah ouais. Donc effectivement,
c'est pas remboursé, hein, voilà.
Ouais, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas remboursés, c'est bon, ça.
Cela dit, ça vaut la peine de demander à votre médecin, votre ophtalmologue, de faire une demande spéciale en mettant en avant le fait que vous n'avez pas eu de bons résultats avec celles qui sont remboursées, que la cornée est à risque, que vous risquez des lésions graves avec une greffe de la cornée. Enfin bref, il y a moyen de faire peur aux assurances et de les pousser à être plus compréhensifs. Alors, pour la sécheresse oculaire, bien sûr, les mêmes traitements systémiques que pour la sécheresse buccale, pilocarpine, sémiméline et sulfarlène, et puis, dans certains cas très graves, des immunosuppresseurs, et en particulier dans ce fameux MabThera qu'on peut discuter pour ça uniquement. Alors maintenant, les manifestations extra-articulaires. Les manifestations extra-articulaires sont multiples, hein. Et donc... Extra-glandulaire. Comme rhumatologue, je dis souvent extra-articulaire, mais je préfère dire glandulaire. Extra-glandulaire, exactement. Donc, les manifestations extra-glandulaires qui comprennent justement les manifestations articulaires, les manifestations cutanées, les manifestations éventuellement rénales, pulmonaires, enfin, il y a toutes sortes de manifestations qui peuvent survenir. Alors, pour ça, on a toute une série de traitements systémiques, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ? On a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je vais revenir ensuite en détail sur ces différentes classes de médicaments. On a grosso modo les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont surtout utiles pour les articulations. On a les corticostéroïdes, qui sont utiles pour à peu près tout, mais qui sont difficiles à utiliser pendant longtemps à des doses suffisantes, on le verra. On a les immunosuppresseurs classiques, comme le MabThera, l'Araval, l'Imurec, etc. Et puis on a les immunosuppresseurs biologiques, la nouvelle classe de ces médicaments. Vous êtes familier avec le terme immunosuppresseur biologique par rapport à classique. Donc les immunosuppresseurs classiques sont des molécules chimiques qu'on utilise depuis longtemps, comme le méthotrexate, l'Arava, l'Imurec, le Celcept plus récemment, qui ont des effets qui sont peu ciblés, des effets en fait qui sont souvent multiples d'ailleurs, mais qui ont pas mal d'effets secondaires dû au fait qu'ils sont peu ciblés. Et puis, plus récemment, on a mis au point des immunosuppresseurs biologiques comme le MabThera ou comme les anti-TNF ou comme l'Orencia, pour ceux peut-être qui l'auront expérimenté, qui sont en fait des protéines qui sont souvent des anticorps dirigés contre une molécule inflammatoire de l'organisme, donc qui sont produits par génie génétique, c'est biologique, qui sont des protéines. Étant des protéines, on ne peut pas les prendre par la bouche parce qu'elles seraient digérées et inactivées, donc on doit les injecter. Elles coûtent extrêmement cher, c'est des traitements qui valent une vingtaine de milliers de francs par année en général, mais qui sont remboursés par les assurances. Là, il faut encore aussi se bagarrer un peu parce que l'indication pour le syndrome de Sjögren isolé n'existe pas, mais il y a moyen de contourner ça. Et puis, on a parfois des résultats excellents avec ces immunosuppresseurs biologiques. Ce qu'il faut savoir.
Le nom juste de ces médicaments.
MabThera. MabThera. Mais j'ai laissé sur le PC ma présentation que
je
dispose.
Je l'enverrai à tout le monde. Je la mettrai sur le site internet. Je l'enverrai à tout le monde.
C'est un biologique. Biologique. Et ces immunosuppresseurs biologiques, alors ont des avantages, ont aussi un certain nombre d'inconvénients, mais on les utilise souvent en association avec les immunosuppresseurs classiques.
Et
mais je vais y revenir, oui.
Parce que
poser la question. Si tu l'as posé, tu l'as posé. On est dans un cas là, pour madame, qui, où le médecin traitant dit oui, il faudrait un biologique et le rhumatologue
dit non.
Intéressant.
Alors ça,
comment vous approchez ça?
Ça, c'est fréquent. la médecine n'est pas du tout une science exacte. C'est du savoir. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a des questions de tempérament, des questions de compétence, des questions d'habitude, des questions de sensibilité, donc, toutes sortes de choses qui font que tel ou tel médecin sera plus ou moins enthousiaste pour les traitements énergiques. Les traitements biologiques sont considérés comme des traitements assez énergiques, voire agressifs par beaucoup. Alors, on considère maintenant que le mot agressif n'est pas le bon mot, parce que quand un patient a besoin d'un traitement très énergique, c'est bien meilleur pour sa santé, pour toutes sortes de raisons, de le donner que de ne pas le donner. Et par exemple, ça a été bien montré que ces médicaments biologiques qui peuvent entraîner des risques d'infection, parce que ce sont tous des immunosuppresseurs qui diminuent un peu les défenses immunitaires, qui peuvent augmenter les risques d'infection. Pour certains d'entre eux, ils peuvent augmenter le risque de certaines tumeurs, pas de toutes, mais de certaines, c'est à prendre en compte. En général, on peut surveiller des choses. Donc, c'est des médicaments qui font peur, mais c'était très bien montré sur des études de grandes populations que quand on donne ce type de médicaments à des gens qui en ont besoin, non seulement l'espérance de vie de ces gens qui en ont besoin ne diminue pas, mais au contraire, elle augmente. Parce que les gens qui ont des maladies sévères et qui ont besoin de ces médicaments, je parle là de maladies très sévères, mais quand on a une maladie très sévère, il y a un certain nombre de facteurs qui font que l'espérance de vie diminue, avec le risque de lymphome, avec le risque d'infection due au surgrade, avec le risque de maladie cardiovasculaire due au surgrade. Et là, encore une fois, je ne parle que des maladies sévères. Et dans ces cas-là, c'était bien montré que les médicaments énergiques augmentent l'espérance de vie et la ramènent à l'espérance de vie de la population normale. Et quand je dis espérance de vie diminuée pour les maladies sévères, c'est très peu de choses. C'est pas des gens qui vont mourir à 45 ans, vous le savez bien. Mais par contre, c'est des gens qui mourront plus facilement à 75 ans qu'à 85 ans ou à 95 ans. Et donc, il y a une petite diminution de l'espérance de vie. Cette petite diminution, elle se mesure statistiquement sur des grandes populations. Si on prenait une salle comme la vôtre, on n'arriverait probablement pas à mettre en évidence une diminution de l'espérance de vie dans le syndrome de Sjögren ou dans la polyarthrite rhumatoïde. Sur les grandes populations, ça peut se mesurer, c'est faible. Et sur ces mêmes grandes populations, quand on utilise ces médicaments, eh bien, on réaugmente, on ramène, on normalise l'espérance de vie. Donc, ce qui montre que ces traitements dits agressifs ne sont pas si agressifs que ça, au contraire, ils protègent les gens.
Ah, comment on fait pour départager les personnes?
Alors, si quelqu'un, justement, a un...
C'est le rhumatologue qui doit prescrire pour le soin qu'on veut.
Alors non, en Suisse, ce n'est pas le cas. En Suisse, un généraliste, c'est d'ailleurs pas forcément une bonne chose, mais en Suisse, en principe, un interniste, un généraliste a le droit de prescrire n'importe quel médicament. Il y a des généralistes qui le font. Cela dit, s'il y a un désaccord entre l'interniste et le généraliste, et une situation qui n'est pas satisfaisante, avec des signes objectifs évidents d'une maladie qui reste inflammatoire, qui reste active, et que le rhumatologue dit non, il faut lui demander pourquoi. Et puis si ces arguments ne sont pas convaincants, je pense que ça vaut la peine de prendre un deuxième avis auprès d'un autre rhumatologue. Oui.
Je m'en souviens de chez lui, très sévère.
Oui.
Une question, c'est que j'ai rien contre le rhumatologue.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai été toute ma vie oubliée. Je suis encore traitée par un rhumatologue. Mais la question, c'est pourquoi la plupart des gens sont traités par un rhumatologue, pas pour un immunologiste, ou les deux.
Oui. Alors, c'est une bonne question. Je dirais que ça dépend des pays et ça dépend des périodes.
En Suisse.
Ouais. Alors, en Suisse, La plupart des rhumatologues maintenant connaissent bien le syndrome de Sjögren. Mais ce n'est pas le cas de tous, vous avez parfaitement raison. Et surtout les rhumatologues, je dirais, plus anciens. Parce que maintenant, la rhumatologie suisse est très fortement influencée par la rhumatologie américaine. La plupart des articles qu'on lit viennent des États-Unis et de France d'ailleurs. Il y a aussi très bon centre, très bon rhumatologue en France, hein, parmi les meilleurs du monde. Je dis ça parce que vous avez l'air d'avoir un accent français.
Ah, c'est pas ça. Je vais demander pourquoi vous me regardiez.
Vous avez l'air intéressé. Je me trompe ou pas? Ok. Et donc, la rhumatologie moderne, en fait, la rhumatologie américaine, ce sont les rhumatologues américains qui ont vraiment bien travaillé sur le syndrome de Sjögren, décrit les bons premiers traitements efficaces, etc. Et la rhumatologie suisse s'en inspire. Et maintenant, les centres de rhumatologie en Suisse, pour la plupart d'entre eux, sont très, je dirais, proches de la rhumatologie américaine sur le plan des idées, sur le plan de l'enseignement, etc. Donc la plupart des rhumatologues maintenant connaissent bien.
Là, dites-moi
si
vous êtes d'accord,
le
syndrome
de
Sjögren,
une maladie
auto-immune, ça serait plus un immunologiste. Parce qu'il n'y a pas que le symptôme de rhumatologie chez une personne qui a...
Alors, une chose est sûre, c'est que si vous aviez ici même un immunologue en face de vous, il vous dirait « Madame, vous avez parfaitement raison. » Et puis, un certain nombre de rhumatologues vous diront qu'il y a des rhumatologues qui connaissent ça aussi bien, voire mieux que certains immunologues, et inversement. Alors, ce qu'il faut, c'est trouver un immunologue ou un rhumatologue qui connaisse bien la maladie. Le rhumatologue a un certain nombre d'avantages potentiels, c'est qu'il examinera mieux les articulations qu'un immunologue, il saura mieux faire la différence entre une douleur qui est due au syndrome de Sjögren, une douleur qui est éventuellement due à autre chose, une tendinite, une arthrose, du ce quoi, ou une infection. Donc il a un certain nombre d'avantages spécifiques. L'immunologue, c'est vrai, connaîtra mieux la maladie que certains, en tout cas que certains rhumatologues. Encore une fois, le mieux c'est de trouver quelqu'un qui connaisse bien la maladie et pourquoi pas trouver deux personnes qui collaborent entre elles. Et pour les cas difficiles, à l'hôpital, on collabore entre immunologues et rhumatologues. Souvent.
Hein. Merci.
Alors, est-ce que les antalgiques jouent un rôle dans le traitement du syndrome de Sjögren? Les antalgiques, en principe, ils ne devraient pas jouer un très grand rôle. Pourquoi? Parce que le syndrome du Sjögren est une maladie inflammatoire. Et en principe, il faut traiter l'inflammation avec des molécules anti-inflammatoires, que ce soit des anti-inflammatoires non stéroïdiens simples, comme le brufène, le voltarène, le naproxène, etc. Ou des corticostéroïdes, enfin bref, ces médicaments-là, qui agissent finalement sur l'inflammation, qu'avec des antalgiques. Mais dans certains cas, et notamment ponctuellement, on peut être amené à utiliser des antalgiques, parfois même des antalgiques puissants comme du prodafazan ou du tramadol, donc qui contiennent des dérivés de la morphine, pour des patients qui ont très mal. Mais ça, on ne devrait pas trop les utiliser. On utilise parfois un antalgique un peu spécial, le Lyrica, qui est un antalgique qu'on utilise beaucoup pour les douleurs neuropathiques, qu'on utilise dans les douleurs, par exemple, du diabète. Et comme le Sjögren peut être associé à des atteintes neuropathiques, le Lyrica peut aider certains patients considérablement. Donc ça s'utilise aussi. Et puis, est-ce qu'il faut utiliser des antidépresseurs? Alors, les antidépresseurs, à première vue, on va dire non. Mais il y a quand même un certain nombre de situations dans lesquelles les antidépresseurs peuvent être utiles chez les patients qui ont un syndrome de Sjögren. Pourquoi? Pour trois raisons en tout cas. D'abord parce que le fait d'avoir mal de manière chronique pendant longtemps, ça peut user le moral et entraîner une dépression. Les dépressions secondaires dans le syndrome de Sjögren sont très fréquentes. Et si on fait des analyses statistiques, on verra que le pourcentage de gens déprimés dans une population de gens qui souffrent d'un syndrome de Sjögren est beaucoup plus élevé que dans la population générale. Pourtant, dans la population générale, c'est très élevé. Hein. Vous savez, le nombre de gens qui souffrent d'une dépression ou du prêt des antidépresseurs dans la population générale. Deuxièmement, les douleurs chroniques du syndrome de Sjögren, quand elles ne sont pas bien traitées autrement, entraînent souvent des troubles du sommeil. Les gens ont mal la nuit. Et ces troubles du sommeil, eh bien, ils vont augmenter les douleurs. C'est bien connu que les troubles du sommeil augmentent la douleur. Ça fait longtemps qu'on a réalisé qu'il y avait une association entre douleur et troubles du sommeil. Et puis, on a fait des expériences, pas nous à Genève, mais ça a été fait dans d'autres centres, des expériences dans lesquelles on réveillait des volontaires au milieu de la nuit régulièrement. Et ces personnes développaient très souvent un syndrome douloureux qui ressemble d'ailleurs à la fibromyalgie ou aux douleurs dont on peut souffrir dans le syndrome de Sjögren. Et puis, troisièmement, les antidépresseurs ont un effet analgésique. Ça a été bien démontré. Et c'est pour ça en particulier qu'on les utilise dans la fibromyalgie. Des petites doses, même des petites doses d'antidépresseurs, diminuent le sentiment des douleurs, le ressenti des douleurs, et permettre à certains patients d'aller mieux. Ce n'est pas le cas tous, bien sûr, mais de temps en temps, c'est le cas. Et donc, dans certaines situations, ça vaut la peine, en tout cas, de discuter une telle molécule qui peut beaucoup aider certains patients. Il ne faut pas oublier que la dépression peut être très sévère hein, dans le syndrome de Sjögren, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ces douleurs chroniques, ça use. Ensuite, ça diminue le sommeil, donc les gens dorment mal. Ils dorment mal, ils sont plus stressés, anxieux et déprimés. Et puis, en plus, leur affection est souvent mal reconnue par leur entourage, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit l'entourage professionnel. C'est des gens qui n'ont souvent plus l'énergie de sortir le soir. Leur mari ou leur femme leur demande pourquoi. Essayent de les pousser. C'est la même chose au bureau. Les collègues ne comprennent pas pourquoi ils en font apparemment un peu moins. Les chefs, c'est souvent un gros problème. Donc tout ça s'accumule et fait que les problèmes de dépression sont vraiment très fréquents et plus fréquents qu'on ne croit. Et puis la dépression, bien sûr, ça peut être très grave et dans certains cas, ça peut mener à des issues fatales. Donc il ne faut pas hésiter à en parler quand on sent qu'on perd un peu de pied et éventuellement prendre des antidépresseurs, que ce soit ponctuellement ou plusieurs de longues périodes. Il y en a qui en prennent avec beaucoup de bénéfices sur de très longues périodes et qui vont mieux grâce à ça. Donc voilà un peu tout l'arsenal de classes de médicaments qu'on peut utiliser dans le syndrome de Sjögren. Alors j'ai juste allé plus en détail sur quelques médicaments. D'abord, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Oui.
Juste par rapport aux antidépresseurs, vous avez lesquels, parce qu'on sait qu'ils ont quand même des effets sur la sécheresse.
Oui, alors ça c'est un problème. Mm-hmm. C'est effectivement un problème. Les antidépresseurs classiques, comme par exemple l'antitricyclique, le Surmontil ou autre, ont plus d'effets que les nouveaux antidépresseurs. Donc on utilise plutôt les nouveaux antidépresseurs, comme par exemple la paroxétine, ou comme par exemple le Cymbalta, ou comme par exemple l'Effexor. Ces médicaments ont généralement peu d'effet sur la sécheresse, et puis certains d'entre eux ont plus d'effet sur la douleur. L'Effexor et le Cymbalta ont plus d'effet sur la douleur. Certains autres ont plus d'effet sur l'anxiété, si elle est présente, ou le sommeil, le trouble du sommeil, comme la paroxétine, ou le Réméron. Le Réméron a l'inconvénient de faire prendre du poids, mais pour certains, ce n'est pas du tout un problème. Donc, en fait, ces antidépresseurs, il faut en discuter avec quelqu'un qui les connaisse bien. Et il faut bien choisir. Bien choisir. Souvent, il faut tâtonner un peu, comme d'ailleurs pour tous les médicaments du chemin, il faut souvent tâtonner pour trouver la meilleure molécule. Oui.
Enfin, mon médicament, je crois que vous avez
pensé à du Plaquenil. C'était une bonne question. J'attendais un peu cette question. Plaquenil, on l'a donné pendant des années. Probablement pour rien. Exactement. Pardon ?
Encore, je prends, je ne suis pas d'accord.
Moi, j'avais toujours fabuleux.
Vous trouvez fabuleux ?
Oui. Enfin, ça fait l'effet, ça prend beaucoup de temps pour que ça fasse l'effet.
Ouais.
J'ai suivi aussi une biothérapie avec Marc Terra récemment.
Ouais.
Mais mon médecin, immunologue, m'a demandé de continuer le traitement. Et les deux,
ça va très bien.
Fantastique.
Bon, en tout cas, ça a l'air, parce que vous avez l'air très soyeuse en disant ça. Ok. Alors, c'est probable. Le plaquenil a été essayé dans de nombreuses maladies. Dans le lupus, on dit encore qu'il ne faut surtout pas l'arrêter. Dans le plaquenil, il a récemment fait l'objet d'études sur des grands nombres de patients. Et les résultats étaient négatifs. On n'a pas réussi à démontrer son efficacité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace. Ce qui ne veut pas le dire du tout. Il est probablement peu efficace. Et surtout, il est peu efficace au niveau d'une population statistiquement. Mais les gens sont tous différents. Possiblement que vous avez une forme qui se rapproche un peu d'un lupus, ou bref, que vous répondez mieux au plaquenil, c'est tout à fait possible, c'est même probable, c'est certainement pas pour rien qu'on l'a utilisé au début, mais c'est une molécule qui peut avoir des effets secondaires au niveau de l'œil, justement, avec des dépôts au fond de l'œil, il faut faire des contrôles réguliers, ça peut être pénible. Et pour cette raison, on l'utilise plus tellement en première intention, et contrairement au lupus, où vraiment le dogme c'est il faut continuer le plaquenil, on n'arrête pas le plaquenil, dans le chirurgien on l'utilise maintenant moins, mais pourquoi?
Bon, disons, mon médecin aussi pense que je vais arrêter, je ne vais pas continuer, vu la biothérapie qui existe fabuleuse, donc j'ose espérer que petit à petit je vais arrêter.
Est-ce qu'on a d'autres choses alors à la place du plaquenil?
Alors oui, on remplace généralement le plaquenil par une des classes de médicaments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le méthotrexate, l'imurec, le Celsect ou une biothérapie comme le Mathérachère. Alors pour revenir à ces anti-inflammatoires, ils agissent en inhibant la synthèse des prostaglandines, peut-être que vous l'avez vu ou entendu, mais par cet effet, ils ont quand même pas mal d'effets secondaires, notamment en provoquant des ulcères gastriques, l'insuffisance rénale, des saignements, une augmentation du risque cardiovasculaire. Hein. Ça a été assez bien montré que tous ces anti-inflammatoires, sauf le naproxène, augmentent si on les prend à relativement haute dose, à bonne dose, je dirais, à dose efficace, pendant très longtemps, ils augmentent un peu, pas beaucoup, mais un peu, le risque cardiovasculaire. Donc on a tendance maintenant à les utiliser de moins en moins, d'autant plus qu'on a maintenant d'autres médicaments qui sont efficaces. Donc on les utilise souvent ponctuellement, si par exemple il y a une tendinite, si par exemple on veut aller à un cocktail, si par exemple on veut faire une course en montagne, un truc comme ça, et qu'on n'a pas envie d'avoir mal, c'est très bien, c'est parfait de prendre des anti-inflammatoires. Il ne faut pas hésiter à protéger l'estomac pour les gens qui ont un estomac sensible, mais on hésite à les utiliser sur de longues périodes. Il existe des COX-2 sélectifs, comme le Celebrex ou l'Arcoxia. COX-2 sélectifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'effet secondaire sur l'estomac. Ils ne favorisent pas ou très peu le risque d'ulcère gastrique. Donc ce Celebrex et l'Arcoxia ont cet avantage-là, mais par contre, apparemment, ils ont plus d'effets secondaires cardiovasculaires sur le long terme. Donc, encore une fois, Arcoxia Celebrex, on peut très bien les utiliser ponctuellement, ça reste de très très bons médicaments, mais essayez d'éviter le long terme, donc essayez de trouver autre chose qui marche mieux. Alors, on donne souvent, pour protéger les effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le Voltaren ou le Wolfen, on donne souvent des IPP, IPP inhibiteurs de la pompe à protons, comme par exemple l'omeprazole, le pantoprazole, le Nexium, etc. Alors ces IPP sont très efficaces. Ça, c'est le bon côté de la médaille. Mais par contre, on sait maintenant qu'il y a un revers de la médaille qui est un gros problème. Et ce revers de la médaille, en fait, c'est qu'ils sont bourrés d'effets secondaires, ces IPP. Un 3, on a cru pendant longtemps que c'était un simple protecteur gastrique, un simple pansement gastrique qui n'avait pas d'effet secondaire. Mais il modifie la chimie de l'estomac et il diminue l'absorption du calcium, ce qui favorise l'ostéoporose. Ça, ce n'est pas forcément un immense problème parce qu'on peut donner du calcium, mais il diminue l'absorption du magnésium, ce qui favorise d'autres problèmes, notamment des problèmes cardiaques. Il diminue l'absorption de la vitamine B12, ça c'est très net, mais d'autres vitamines. Ils augmentent le risque de pneumonie parce qu'ils suppriment la production d'acide dans l'estomac et pour cette raison, le risque d'injection de germes et donc de pneumonie est augmenté. Donc bref, ils ont un certain nombre d'effets secondaires. Raison pour laquelle maintenant, on essaye de plus en plus d'éviter la prescription de ces IPP sur le long terme. Et donc, j'en parle là parce qu'on associe très souvent et trop systématiquement par réflexe ces IPP aux anti-inflammatoires. La plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, il y a une prise de conscience sur le fait que les IPP, d'une manière générale, sont beaucoup trop prescrits, qu'il faudrait beaucoup diminuer cette prescription.
Les diminutions d'absorption de calcium et magnésium, ça s'arrête quand on arrête les IPP?
Alors, ça s'arrête quand on arrête l'IPP, absolument. Et d'ailleurs, une bonne façon de faire, c'est de prendre un IPP 3 jours par semaine, par exemple, parce que là, vous absorbez au moins un jour sur deux. Le problème des IPP, c'est qu'ils induisent une accoutumance. Et quand on essaye d'arrêter un IPP, eh bien, on a mal au ventre. Et il faut passer par-dessus. Il faut l'arrêter d'abord progressivement et se dire que c'est normal d'avoir un peu mal au ventre pendant quelques temps parce qu'il y a des espèces de rebonds avec l'augmentation de la sécrétion acide pendant un certain temps. Donc, c'est pas si facile d'arrêter les IPP, mais c'est quand même préférable. Cela dit, il y a des gens qui les prennent toute leur vie pour certaines maladies gastriques et puis on peut faire des contrôles réguliers. Et puis, généralement, il n'y a pas de problème majeur, mais pas trop en abuser. Oui.
Est-ce que prendre des probiotiques après avoir pris les IPP pendant quelque temps, ça peut aider en fait les douleurs?
Alors, probablement, que ce soit des probiotiques éventuellement, ou d'autres médicaments comme les antiques, ça peut aider à arrêter un IPP. Ou de l'ulcoban, des pansements gastriques. Ça, c'est une bonne façon de faire. Les probiotiques agissent surtout sur la flore intestinale, donc plus bas que sur l'estomac.